des traditions orales des différentes cultures africaines. Que se dit-il de vive voix chez les Arma? Comment transcrire, comment transmettre, comment diffuser? L'oralité est-elle soluble dans l'écrit?
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
De vive voix.
Pascal Paradou.
Rares, très rares sont les publications françaises dans une langue africaine et il faut, pour en trouver, aller du côté de l'association Classiques Africains qui, depuis les années 60, publie en édition bilingue des textes issus de la tradition orale. Bonjour Christiane Seydoux.
Bonjour.
Vous faites partie de cette association, vous étiez là presque au début. Avec quel objectif travaillez-vous?
Alors l'objectif, depuis le début, ça a été de créer une collection Budé, carrément, des classiques africains, parce que les personnes qui ont créé cette association, c'était un groupe d'universitaires qui gravitaient autour du Musée de l'Homme, parmi lesquels Léris, en particulier, comme
Michel Léris, grand Léris, poète et grand
Michel
ethnologue.
Léris, oui, et puis des anthropologues comme Éric de Dampierre et Tarditz, et aussi un musicologue, Rouget, et qui a créé justement le centre d'ethnomusicologie au Musée de l'Homme. Et ils ont eu l'idée, de par leur expérience, que les traditions orales risquaient, avec l'évolution de la société, de disparaître plus ou moins, et qu'il était essentiel de sauvegarder ce patrimoine culturel africain oral, même si l'écriture devait le fixer, malheureusement. Mais bon.
Pourquoi malheureusement?
Parce que, dans toute littérature orale, la performance en tant que telle a une importance énorme, et que chaque fois qu'un griot, par exemple, raconte une histoire, il la raconte en fonction de la situation dans laquelle il la raconte. Donc, jamais un texte n'est définitif. Et ça fait partie de la vie sociale totale, et la littérature est un phénomène social total. Donc
on perd quelque chose en lisant.
On perd quelque chose, bien sûr, on le
mais
perd.
Mais on en gagne
on
beaucoup aussi.
Alors, oui, enfin, on gagne au moins la sauvegarde. Et puis, nous avons décidé de le faire en bilingue pour que, justement, ça soit ouvert à des lecteurs non africains et que ces textes de littérature soient accessibles autrement que par le canal de la francophonie, qui était le fait d'écrivains modernes africains.
Alors, dernière édition en date de cette collection Continents africains, Noces en parole chez les Arma, livre que l'on doit à Sandra Bornand. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de recherche au CNRS, doctoresse lettres en ethno-linguistique, et vous venez donc de publier cet ouvrage. Alors, on va peut-être procéder par ordre. Que faut-il savoir sur les Arma, si ce n'est que c'est une population que l'on trouve principalement le long du fleuve Niger?
Oui, dans l'ouest, tout à fait.
Alors, que faut-il savoir?
Que c'est une société patrivirilocale, c'est-à-dire que...
Une société patrivirilocale. Ça, donc, c'est une invention linguistique, quasiment.
Donc, une société patrilinéaire. L'héritage se fait par le père. Et la femme part s'installer dans sa belle-famille ou chez son mari, maintenant. Et donc, il y a tout un rituel autour du mariage pour préparer à ce départ et à cette nouvelle vie.
Alors, quel type de population? C'est un peuple de nobles? C'est un peuple où il y a des castes, beaucoup?
Oui. Alors, maintenant, on dit Zarma, c'est un critère, entre guillemets, ethnique, je mets des gros guillemets, pour dire les personnes vivant dans la région Zarma et parlant de Zarma. Mais autrefois, et ça continue en sous-jacent, Zarma ne désignait que les hommes libres. Donc, ce qu'on dit noble en français nigérien ou en français africain.
Donc, ça suppose hommes libres, esclaves.
Esclaves et gens de, entre guillemets, caste. Des groupes sociaux intermédiaires, dont les Djassaré, qui sont les griots généalogistes et historiens, qui, eux, n'étaient ni nobles, ni esclaves.
Alors, vous avez donc travaillé pendant 20 ans sur les Arma, c'est vraiment presque l'œuvre d'une vie, pour recueillir leurs paroles, leurs traditions orales, leur littérature. Est-ce qu'on peut utiliser ce mot-là de littérature?
Pour moi, oui. Mais par contre, on est dans une littérature circonstancielle, dans la mesure où c'est adapté à un rituel et qu'il y a beaucoup de variations en fonction de la situation de l'auditeur qui réagit ou ne réagit pas. Notamment, ça c'est pour les chants, il y a une énorme variabilité. Mais pour moi, on peut parler de littérature.
C'est ce que disait Christiane, il y a un côté performance dans ces projets de parole. C'est la première fois que des textes oraux Zarma sont transcrits. Vous êtes la première, une pionnière ?
Non. Il y a une chercheure nigérienne qui s'appelle Fatimata Munkeila qui avait transcrit des textes en Zarma français, plutôt elle justement en littéraire. On avait d'autres qui travaillaient sur les traditions historiques telles Jules Delaya, donc un chercheur nigérien aussi. Et Jean-Pierre Olivier de Sardan, un anthropologue français, avait travaillé sur les discours des dominés, donc plutôt des discours sur l'histoire. Par contre, c'est la reconstruction et la mise en mariage, quelque part, qui est unique pour l'instant.
Oui, parce c'est un livre consacré au rituel du mariage.
Et alors, avec tous les discours qui ont lieu au moment de ce mariage, en fait.
Alors, on va écouter tout cela, on va écouter la musique Zarma, parler de ces griots généalogistes qui disent l'histoire des ancêtres, mais avant l'actualité avec le dernier Tiken.
Politique. Je sais leur arrogance et leur vision cynique. Je te dis ce qu'ils en pensent du réchauffement climatique. Ils mentent avec aisance, c'est Pinocchio pathétique. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud.
Encore combien de temps vont-ils nous mettre la disquette? C'est sur le dos des mêmes qui font leurs plus grosses recettes. Y'a le sang d'innocents sur les mains de leurs boulettes. Et ça depuis des siècles. Mais il est temps de leur dire stop. Il est temps qu'ils assument leur faute. Je vois la chute en suivant leur sort. Leur priorité c'est leur confort. Voilà pourquoi
le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud.
Je respire la fumée. Je suis à bout de souffle. Je vois les flèches faner. L'atmosphère nous étouffe. Ils ne font que promettre. C'est foutre de la morale. Ils n'ont qu'une chose en tête. C'est leur paradis fiscal.
Le monde est chaud, Tiken Jafakoli et soprano, extrait du nouvel album de Tiken. Autre musique, nous sommes aujourd'hui avec Christiane Seydoux et Sandra Bornan pour une émission consacrée aux Zarma, autour d'un texte qui vient de paraître sur les noces en parole chez les Zarma, donc cette population du Niger. Le mariage étant une affaire sérieuse un peu partout, mais chez les Zarma encore plus. Cela dure 2 jours, 3 jours, voire une semaine, et ce temps est très ritualisé car c'est un événement qui engage en fait l'ensemble de la société et qui engendre aussi une quantité de paroles absolument incroyable, parce que votre livre, Sandra Bornan, est très épais, 400 pages quasiment.
Et Christiane m'a fait enlever une grosse partie.
Donc, quel type de mots on entend à cette occasion? J'étais très frappé, je vais vous l'avouer, je n'ai pas tout lu du début à la fin, ce n'est pas un roman policier, mais j'ai picoré comme cela et je suis très frappé de certaines phrases utilisées. Par exemple, au moment de la demande en mariage, un oncle doit venir dans la belle famille et demander une espèce.
Oui, et après on énumère les nombres d'espèces et on joue sur le fait que le terme espèce désigne aussi l'espèce humaine. Et donc, on va faire semblant de pas comprendre pour montrer que c'est important, qu'on va pas la donner sa fille n'importe comment.
Mais c'est un jeu?
Oui, c'est joué, en fait.
Avant le mariage, la mariée doit être isolée. Et au moment où elle se marie, on appelle cela l'attachement au livre.
L'attachement du livre, c'est pas le moment où on se marie, mais c'est la célébration religieuse qui est l'attachement du livre, en fait. Parce qu'il y a une, il y aura une lecture des bénédictions musulmanes, puisqu'on est dans une société musulmane, islamisée depuis longtemps, mais avec différentes périodes d'islamisation et des changements dans les pratiques au fur et à mesure de ces périodes.
Donc tout ce temps est très ritualisé, jusqu'à la nuit de noces, puis le départ de la mariée qui doit être cachée par une couverture au domicile de l'époux, puis on lui met du henné, on lui tresse les cheveux, on lui donne des conseils, et à chaque fois, il y a un texte dévolu pour ce moment-là, soit un chant, soit des psalmodies. Comment s'est organisé tout cela?
Alors, donc, on a la veillée avant la bénédiction musulmane qui se passe du côté des parents de la fiancée et donc où il y aura des chanteuses qui vont venir animer et célébrer les mères de la mariée, les mères classificatoires. Et donc là, on aura des chants très circonstanciels où elles vont à la fois louer les mères, mais en même temps essayer, puisque le but est aussi d'obtenir, c'est des membres de groupes sociaux type artisans du cuir, griottes ou des descendants d'esclaves qui vont chanter et essayer d'obtenir des petits dons en échange. Donc il y a un jeu qui va être de se faire récompenser pour sa parole et donc de louer ou de critiquer celle pour qui on est venu.
Alors, ce qui est formidable dans ce livre, Sandra Bornand, c'est que vous faites du lecteur un participant idéal qui a accès à tout. Alors que dans la vraie vie, il y a les épisodes avec la mariée, les épisodes avec le marié, les épisodes avec la famille. Et puis, il y a aussi, puisqu'on est dans une société polygame, il y a la dernière épousée avec une cérémonie consacrée qui s'appelle comment?
Marchanda.
Un extrait de la marchanda, donc, qui est cette cérémonie autour de la dernière épousée, c'est en fait une joute d'insultes.
Alors, au début, on a une joute verbale d'insultes entre les grandes épouses, c'est-à-dire celles qui ont été épousées en premier, deuxième quand on a quatre femmes, et les dernières épousées. Mais qui ne sont pas en position de perdre leur rang de dernière épousée à ce moment-là. Et en fait, elle se lance des insultes pour se provoquer et c'est une manière de sortir la colère face à cette situation. Et après, on va arriver à des chants qui, eux, vont exprimer la douleur, l'impuissance.
La jalousie.
Et la jalousie. Et en fait, le cœur dit combat, combat, combat. Donc, la chanteuse se met à la place de celle qui perd son rang de dernière épousée et raconte tous ses doutes. Et les autres l'enjoignent à combattre et à pas se laisser faire pour garder place dans le foyer.
C'est presque féministe.
C'est presque féministe.
presque. Alors, toutes ces paroles, tous ces chants, vous les avez bien évidemment enregistrés. J'imagine que ce sont des centaines d'heures que vous avez.
C'est de nombreuses heures et notamment de nombreuses heures où je n'entends rien parce que là, ça s'était enregistré à un moment hors contexte parce que en situation de mariage, elle se pousse, on ne sait jamais qui va chanter. Donc, le micro giclait. Donc là, j'avais refait l'enregistrement à un moment.
Tout particulièrement. Alors, en lisant la transcription donc de ces paroles au moment des noces, on s'aperçoit qu'il y a de la morale, qu'il y a des conseils, qu'il y a des proverbes, qu'il y a de l'humour. Par exemple, on conseille à une invitée de s'enrouler la tête de nombreux foulards pour ressembler à la fusée Apollo, parce qu'il faut avoir une grosse tête et une grande coiffure. Il y a des rimes. Les grandes épouses, par exemple, elles ne peuvent rester sans médire, elles ne peuvent rester sans mentir. Le registre est large, finalement, en fait.
C'est très large, parce que effectivement, on a des choses quasiment rappées, alors qu'on a des moments beaucoup plus mélodieux. Et dans les paroles qui se disent, on peut avoir même des paroles qui se contredisent. Par exemple, à un moment de la cérémonie, on peut chanter quiconque te frappe, frappe-le en retour. Quiconque t'insulte, insulte-le en retour. Mais ce quiconque ne recoupe pas quiconque. Et à un autre moment, les mères de la mariée peuvent dire à la jeune mariée, si ta méchante belle-mère t'insulte, pleure et tais-toi. Si tes méchantes belles-sœurs t'insultent, pleure et tais-toi. Mais si ton mari t'insulte, prends tes affaires et rentre chez toi, car il n'y a pas de honte pour une Zarma à rentrer chez soi. Et ça permet quelque part de glisser des conseils à celle qui n'a jamais vécu cette situation. Et donc, c'est pour l'accompagner, la préparer. Il y aura des chants où on parle de la difficulté d'être dans la cour de sa belle-mère, etc. Donc, c'est une préparation à vivre ce moment.
Alors, tout cela, bien sûr, c'est l'affaire de la communauté, c'est l'affaire de la société, de la famille et de la société. Et il y a un personnage clé qui est le Djazaré, c'est-à-dire le griot généalogiste. L'un d'eux est mort en avril dernier, c'est Djibo Badjé. Djibo Badjé, qui est donc parti rejoindre les ancêtres il y a un an, vous avez dit à cette occasion, Sandra Bornand, que la parole était orpheline.
Oui, parce que au Niger, en région Zarma, c'était le dernier qui savait raconter les récits. Bien sûr que Djassaré, on est Djassaré, donc on hérite ce statut, mais il y avait toute une sorte d'apprentissage à suivre. Et maintenant ne reste que des Djassaré sachant faire les généalogies, et encore. Mais par contre, raconter des récits, c'est le dernier. C'est par lui que je suis entrée dans la société Zarma.
Comment vous êtes rentrée d'ailleurs dans la société Zarma?
Au début, par hasard, j'étais à l'université de Lausanne. Et en fait, je suis tombée sur une épopée racontée par un autre griot Zarma qui s'appelait Djado Sekou. Et en fait, je suis tombée sous le charme et je me suis dit, mais alors, je vais aller passer mes vacances au Niger. Et en fait, par hasard, je suis tombée dans la famille d'un ancien chef de Liboré. Il était décédé, le chef, à l'époque. Et ils m'ont dit, on a un griot. Si tu veux, tu peux le rencontrer. On s'est rencontrés, je lui ai dit, mais je vais tout faire pour revenir. Et en fait, il m'a attesté. Et après, il m'a dit, écoute, moi, j'ai 30 enfants. J'ai beaucoup de garçons, mais aucun n'a pris la suite. Et donc, j'aimerais que tu enregistres. Et donc, on a commencé mon travail et mon entrée dans le mariage était par lui. Parce que le Djassaré, une de ses principales occupations, c'est d'aller au mariage pour louer les mariés, mais aussi pour les distraire ou les exalter au moment de leur noce.
Alors Sandra Bornand, il y a 5 ans, une de nos consoeurs à RFI, Amélie Tullet, consacrait justement un reportage à la tradition orale Zarma et à votre travail de collecte. Écoutez ce témoignage.
Je suis Adamou Moussa, batteur de tam-tam à Liboré. Je connais Djelba parfaitement, on est du même village. Djelba, c'est une personnalité très importante parce que c'est lui qui connaît les aventures des ancêtres là. C'est à travers lui qu'on peut savoir qu'est-ce que nos grands-parents ont eu à faire. D'où est-ce qu'ils viennent? Pourquoi ils se sont déplacés de tel pays pour venir de tel pays? C'est à travers Djelba qu'on sent tout ça. Tes grands-parents ont eu à faire ceci, tes grands-parents ont eu à faire cela, ils ont quitté de là. Et voilà, tu vois là aujourd'hui, à ton tour, tu es en train de te marier. C'est ce qu'il raconte.
Et les gens, ils aiment entendre ça?
Oui, ils aiment entendre ça. Oui, c'est à travers ça que les gens vont faire des gestes là. Les gens vont faire des gestes.
Mais Djelba, il vieillit et ses fils, ils ne vont pas devenir Djassaré. Alors qu'est-ce qui va se passer après?
C'est une grande perte. S'il meurt avec toutes ces connaissances là, où est-ce qu'on va apprendre ça encore? C'est grave. Ah, peut-être avec Sandra, on est très fiers de ce que Sandra est en train de faire là. C'est pour cela qu'on souhaite à ce qu'il garde correctement ce qu'elle est en train d'enregistrer auprès de Djelba.
Sandra Bornand, est-ce qu'on peut dire à Madou Moussa que ça y est, non seulement vous avez enregistré les paroles, mais qu'elles sont devenues un livre?
Elles sont transcrites, pas tout, mais il y a en tout cas quelque chose qui est transcrit en fait et qui pourra rester et qui pourra être utilisé pour ceux qui voudront l'utiliser pour aussi J'ai transcrit selon l'alphabétisation, en respectant les règles de l'alphabétisation, de manière à ce que ça puisse être utilisé par ceux qui apprennent à lire en Zarma.
Oui, justement, quels sont les problèmes dans une opération comme celle-ci ? Est-ce que c'est la transcription dans la langue qui n'est pas une langue écrite, mais qu'il faut bien écrire, et ensuite la traduction ? Où sont les principales difficultés ?
Alors, il y a des difficultés qui diffèrent selon les genres. Avec le griot, la transcription demandait beaucoup de travail, mais était plus simple parce qu'il y a moins de bruit. Il y a moins de pagaille. Tandis que quand les femmes chantent, plein de choses se passent à côté. Il y a des femmes qui cuisinent pendant ce moment-là, il y a des femmes qui s'interpellent, donc on a beaucoup de bruit autour et c'est difficile à comprendre. En plus, les paroles sont adressées et sous-entendues pour quelqu'un et c'est pas toujours facile de le comprendre sur le moment. Avec le griot, c'est plus facile à suivre.
Est-ce que vous êtes d'accord, Christiane Seydoux, puisque vous avez travaillé avec le même type de problématique sur la littérature orale Peul, donc du Mali essentiellement. Est-ce que vous avez eu le même problème ?
En fait, non, parce que moi j'ai toujours enregistré, non pas en situation, parce que c'était impossible. Et en particulier pour la poésie des bergers, qui clament leurs poèmes pendant que les troupeaux passent à toute vitesse, pendant les fêtes de transhumance, avec le monde qu'il y a, etc. Mais pour moi, la difficulté, c'est plutôt celle de traduire. Oui. Traduire la poésie, surtout une poésie qui est faite sur la prosodie particulière et le style, c'est de faire en sorte que les sons chantent. Alors, pour faire chanter les sons en Peul, très bien, mais faire la même chose en français et trouver les mots qu'il faut pour répondre à cette règle stylistique, c'était pas facile.
En tout cas, ces livres-là, puisqu'il s'agit d'une collection, Classique africain et Les Armas, Les Noces en parole chez Les Armas et le numéro 36, si je ne m'abuse, ce type de livre est essentiel pour la préservation à la fois d'une langue et d'un rituel. C'était un peu l'objet d'ailleurs de cette collection, Christiane Seydoux.
Oui, l'objet c'était d'être représentatif des fondamentaux culturels de chaque société quand on y était, quoi.
Donc ça sauve d'une certaine façon face à la modernisation, oui, à la mondialisation, à la perte de mémoire des peuples et des populations, et ça fixe un peu.
Absolument, ça fixe. Alors ce qu'il y a aussi, c'est qu'on voulait illustrer les genres littéraires qui étaient accompagnés obligatoirement de musique, ou qui étaient chantés, et dans certains volumes, on a inclus soit des cassettes, soit des petits CD. Mais étant donné que tous ces produits-là sont obsolètes, maintenant, on essaye de les enregistrer au CREM, qui est le Centre d'ethnomusicologie de Nanterre. Et donc, on pourra les écouter en ligne.
Alors, si vous travaillez pour la diffusion, d'une certaine façon, des langues nationales africaines avec ces éditions, il y a aussi des jeunes gens issus de la diaspora, pour l'essentiel, qui viennent de créer un collectif pour promouvoir justement les langues africaines sur Internet, pour que le web parle Fon, Wolof ou Poulard. Charlie Dupuy a rencontré deux de ses membres de ce collectif qui s'est baptisé IDEMI Africa.
Je m'appelle Rouyette Assal, j'ai 32 ans, je suis journaliste. Alors moi, ma langue maternelle, c'est le Poulard, puisque mes parents sont originaires du Sénégal.
Et moi, je m'appelle Padonou Espérant, je suis béninois et j'ai 31 ans. J'ai grandi au Bénin, je suis arrivé en France à l'âge de 18 ans. Je suis aussi du collectif IDEMI Africa.
IDEMI, qu'est-ce que ça veut dire ? Ma langue compte. Ça veut dire ma langue compte, IDEMI.
Donc c'est un collectif qui a commencé en mode gilet jaune au départ parce que chacun avait une idée, quelque chose qu'il voulait faire autour des langues africaines. Petit à petit, on a pu s'entendre sur des événements organisés, sur le fait qu'il fallait centraliser les choses sur une plateforme.
Vous êtes combien aujourd'hui ?
Si on doit compter tout le monde, on doit être une cinquantaine de membres actifs. Comme moi, j'ai baigné dans les langues africaines, notamment le fon, pour ma part, qui est une langue parlée par, je vais dire une bêtise, 1 à 3 millions de personnes au Bénin. Quand on veut dire des choses très précises dans nos langues, on fait un petit audio sur WhatsApp ou sur Facebook.
Comme un petit message vocal ?
Un petit message vocal qu'on envoie à l'autre. Et d'ailleurs, je pense que le fon et les langues africaines en général, c'est issu d'une tradition orale. Et que c'est à l'oral qu'on retrouve peut-être plus la beauté de ces langues.
Pourquoi vous voulez autant promouvoir ces langues africaines ?
Au fait, on pense qu'aujourd'hui, une bonne partie du progrès est accessible via Internet. Quand je cherche n'importe quoi aujourd'hui, j'ai tendance à prendre mon téléphone et à aller sur Google Et notre idée, c'est que en faisant en sorte que les langues africaines soient plus représentées sur Internet, on permet plus aux populations qui ne parlent pas les langues les plus connues du monde d'avoir accès à certaines connaissances qui sont parfois vitales pour leur métier, pour leur survie.
La majorité des contenus qui sont en ligne sont soit en français, en anglais, en chinois, mais il y a très très peu de choses en langue africaine, sauf que ça représente des millions et des millions de personnes qui peut-être aussi n'ont pas forcément accès au contenu parce que il y a la barrière de la langue tout simplement. Alors moi j'ai travaillé sur l'idée d'une plateforme qui agrège un peu déjà l'existant. C'est-à-dire que du contenu en langue africaine, il y en a sur internet, mais sauf que c'est pas forcément identifié. Donc nous ce qu'on voulait c'était créer une plateforme où on recense et on agrège l'existant, à savoir les cours qui sont disponibles gratuitement, les médias en langue, peut-être des concerts aussi de musique, enfin vraiment d'offrir au lecteur ou à la personne qui cherche différents formats pour pouvoir apprivoiser un peu une langue africaine. Donc on a recensé différents types de formats, des médias, des pages sur les réseaux sociaux.
Et dans ces groupes-là, on parle en poulard par exemple ?
Oui, oui, oui. Et puis moi, ça m'apprend aussi l'écriture, parce que je n'ai jamais su, et je ne sais toujours pas écrire le poulard. Mais du coup, ça me permet de voir du contenu écrit dans ma langue.
On peut voir peut-être une de ces pages ? Par exemple, là, il y a écrit un petit texte d'introduction en poulard.
Oui, c'est la description du groupe. Alors, Pijen Jalen Kalen Poulard, Di Nehada Jimen, Yodem Galmen Yarouyes. Alors, ça veut dire jouons, rigolons, parlons poulard, que notre langue aille de l'avant, je dirais. Pour nous, les enfants de la diaspora, on pratique pas assez, finalement. Je vois ne serait-ce que l'écart avec mes petits frères qui sont beaucoup plus jeunes que moi, qui, eux, ils s'expriment en français avec ma mère, alors que moi, je parle poulard avec ma mère. Et ça se dilue, en fait, avec le temps. Et le risque, c'est que nos enfants, ils sachent pas parler la langue que nos parents nous ont transmis, quoi. Donc, pour moi, c'est important, et je pense que je suis pas la seule, mais personnellement, avoir ces contenus, regarder des films en poulard, et c'est aussi entretenir ma pratique de la langue, quoi.
Christiane Seydoux, vous ethnologue, que pensez-vous de cette initiative en faveur des langues africaines ?
Je suis étonnée parce que le peul s'enseigne à l'époque, c'était les langues o. Depuis, 1930 ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est le peul est enseigné ici depuis.
Mais aux langues o, pas au quotidien, pas pour les enfants de la diaspora.
Bien sûr. Mais le pire, c'est que dans les pays africains même, il y a des politiques linguistiques qui sont à revoir. Mais quand même, au Sénégal, le poulard, il y a eu un gros travail fait par l'AELIA avec la formation de formateurs qui allaient dans les villages pour faire de l'alphabétisation. Je suis étonnée d'entendre dire, comme si c'était une découverte maintenant en 2019, que le poulard, c'est fou, quoi, parce que c'est enseigné depuis très, très, très longtemps.
Ça
même
veut dire
dans
que ça n'est pas arrivé, ça n'est pas arrivé pour les enfants de la diaspora dans ce cas-là, ça n'est pas arrivé jusqu'à leur oreille et leur savoir.
C'est ça, oui.
Mais il y a des enfants de diaspora qui suivent les cours à l'INALCO.
Mais bien sûr, maintenant.
Mais quelques-uns seulement.
Voilà, quelques-uns.
Alors
oui,
que là, c'est le média de masse qui est Internet.
Et l'INALCO fait le Wolof, le Yoruba, mais par exemple le Zarma.
Le Haoussa,
il n'y a pas la possibilité.
Le Haoussa, le Peul, les choses aussi éthiopiennes, les langues éthiopiennes. Enfin, oui, il y a quand même beaucoup de choses.
À l'oral, on retrouve la beauté de la langue. Vous êtes d'accord ?
Ah oui.
Vous savez parler Zarma ?
Oui.
Dites-moi un mot, dites-moi au revoir.
Irma Foyban.
Irma Foyban.
Que nous passions l'après-midi en paix.
Merci à vous Christiane Seydoux, merci Sandra Bornand. Votre livre donc, Noces en parole chez les Armas, est édité dans la collection Classiques africains qui est distribué par les éditions Cartala. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Véronique Durand, Ludivine Abado à la réalisation avec Guillaume Ploquin. Et vous pouvez bien sûr nous retrouver sur la page rfi.fr. Il faut cliquer sur le bouton podcast, puis aller sur la page de l'émission. Sinon, il y a l'option Facebook, page de vive voix. À très vite.